Ésaïe, chapitre 66, versets 9 à 14. Ésaïe 66, 9 à 14. Au nom de Jésus. Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous avec elle. Enthousiasmez-vous pour elle. Vous tous qui aviez pris le deuil à cause de son malheur, partagez maintenant avec elle une joie débordante. Ainsi vous vous rassasierez des consolations qu'elle vous donne, comme des nourrissons allaités par leur mère qui tètent avec délice son sein généreux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allait, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, telle une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai, et même à Jérusalem. Oui, vous connaîtrez ce moment-là, votre cœur sera dans la joie, et vos vieux os reprendront vie, comme l'herbe au printemps. Le Seigneur fera éprouver son pouvoir à ses fidèles, mais sa colère à ses ennemis. Amen. En lisant ce passage et en relisant énième fois ce texte, j'avais l'impression que je lisais un texte qui se situait dans les Cantiques de Cantiques, mais pas dans Ésaïe. Pourquoi je dis cela? Les Cantiques des Cantiques, vous savez bien sa particularité. En jetant un coup d'œil dans les traductions littérales, je dis bien littérales, les expressions utilisées par l'auteur ici sont des métaphores très féminines, à l'image d'une mère nourricière. Et je vais vous relever quelques termes qui sont parfois très proches d'une description anatomique, comme quelqu'un qui décrit le corps d'une femme. Dans le livre Cantique des Cantiques, on voit bien aussi cette délicatesse de l'auteur dans sa façon de décrire le corps de sa bien-aimée. Et parfois on se perd si on ne comprend pas le sens. Ici par exemple, au verset 9, j'ai comparé les deux versions. Dans notre version d'aujourd'hui, Bible français courant, voici ce qui est dit. Au verset 9, « Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître ?» Dans une des versions plus littérales, voilà ce qui est dit. « Serais-je dilaté sans enfanter ?» dit Yahvé. « Si j'enfante moi-même, si je suis l'enfanteur, me refrénerai-je ? » Et alors là, on parle même, pour ceux qui font la médecine, ils parlent de spasme dans la traduction littérale, c'est-à-dire des contractions involontaires. Et j'ai continué au verset 10. Dans notre version du français courant, il est dit « Ainsi vous rassasierez des consolations qu'elle vous donne, comme des nourrissons allaités par leur mère, qui tètent avec délice son sein généreux. » Déjà ici, le mot « son sein généreux », même la Bible français courant a gardé le sens propre. Mais je vous assure que dans la traduction littérale, les traducteurs sont encore plus précis en traduisant « pour que vous têtiez et soyez rassasiés par le sein de ses réconforts, pour que vous suciez et que vous vous délectiez dans le surgissement de sa gloire. Surgissement, c'est-à-dire une apparition brusque. Et l'image qui est utilisée ici, c'est le métaphore des seins généreuses d'une mère pour son enfant. Toutes ces métaphores sont utilisées pour décrire justement l'amour de Dieu. Un amour fort, un amour passionné, un amour puissant. Et moi particulièrement, c'est pour cette raison que j'ai plus aimé l'Ancien Testament, parce que ce sont des expressions de paysans, de simples expressions, mais qui nous fait comprendre certaines choses. Et puis il est dit au verset 12, « Oui, ainsi dit Yahvé, me voici. » C'est-à-dire qu'après avoir fait cette comparaison, là il dit « Je suis comme cela, moi Yahvé. » Donc l'auteur met en exergue que Dieu est comme cette femme généreuse. Et il se compare lui-même à cette image de femme. C'est fort pour l'époque, les femmes qui n'ont pas été considérées. Or, l'Éternel se compare à elles. Et si on veut aller encore un peu plus loin, nous pouvons faire une analyse plus poussée, ce qu'on appelle une analyse onomastique du nom Yahvé, dans le nom de Yahvé, dans la façon de prononcer le nom Yahweh, donne des idées et des significations à celui qui le prononce. Parce que dans la langue que nous avons d'habitude, le français ou l'anglais, la prononciation peut jouer, mais ce n'est pas trop fort. Mais en hébreu, dès qu'on change de façon de prononcer et qu'on a basculé, l'accent, ça change tout comme signification. C'est pour cette raison que les Juifs n'ont plus osé appeler le nom de Yahweh, parce qu'on a oublié la façon de prononcer le mot juste. Et donc, on serait dans l'erreur de prononcer le nom de Yahvé, et ça pourrait même blasphémer. Et le sens blasphémer à ce moment-là est littéral, parce que le même nom peut changer de signification si on le prononce mal. Et dans le premier syllabe, Yahweh, Yah, c'est une sorte d'interjection, une manière vive, Yah, une émotion, un sentiment. Et même dans des dictionnaires encore plus poussés, ils disent une sensation pour décrire un bruit ou un cri avec une idée de sensualité féminine. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow. Dans le nom de Yahvé, concrètement, pour nous alors, comment cet amour de Dieu envers son peuple se manifeste-t-il? Au verset 13, on parle de consolation. Et encore une fois, en prenant l'image de la femme qui allait son enfant dans le but de le consoler, comme un bébé qui pleure et que l'on donne son tété pour qu'il se calme. C'est cette image-là, la consolation. Et ce n'est pas fini. Et aussi à l'image d'une femme qui porte son enfant sur sa hanche et le cajole sur ses genoux. C'est-à-dire, c'est vraiment materner l'enfant. Maintenant, en entendant tout cela, est-ce qu'Israël est conscient de tout le mal que son Dieu a pris pour consoler son peuple? En quelque sorte, sa mère, Dieu, a dû endurer beaucoup de choses pour cet enfant, pour son peuple. Mais Israël n'était pas conscient de cela. À l'image d'un accouchement difficile, un enfant turbulent qui ne cesse de cogiter, fatiguant sa mère qui se démêle du matin au soir pour son enfant. Mais rien à faire, l'enfant ne reconnaît pas l'amour de sa mère. Telle est l'expression de la douleur de Dieu. J'ai fait tout cela, mais tu ne m'as pas aimé, ô Israël. Et même le Christ lui-même avait utilisé une expression qui décrit bien cette situation dans Matthieu chapitre 11, versets 16 à 17. Voici ce qu'il dit. « Ah, qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ?» Il s'adressait à la foule qui était devant lui. « Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres. Nous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. » Telle est l'image que Jésus avait pour Israël. Mais voilà, le Seigneur qui envoie encore et encore son serviteur pour annoncer son amour à son peuple, et il l'envoie pour dire que j'ai une attitude plus qu'une mère envers son enfant. Pour son enfant, une mère est prête à tout. Je vais mettre entre parenthèses presque à tout pour son enfant. Et c'est ce que l'Éternel aussi promet à son peuple pour le consoler. Et cette consolation est explicite dans la métaphore de la mère nourricière pour dire qu'il est encore possible à Dieu de repeupler et redonner vie à Israël. Parce que ici, c'est une mère féconde qui peut encore donner des enfants après le déchirement et le constat amer des exilés qui reviennent au pays. Ceux qui étaient sur place n'étaient plus que des veuves, des enfants. C'était comme si la vie s'arrêtait à Jérusalem. Mais voilà, cette nation, rappelez-vous, était partie de rien. Et si je dis ici rien, c'est dans le sens qu'Abraham n'a eu son fils que dans sa vieillesse. Au moment où il n'y avait plus rien à espérer, Dieu a donné un enfant. Et c'est ce Dieu d'Israël-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu d'Israël. Et à chaque fois que vous prononcez ces mots, Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui est parti de rien et qui a créé cette nation. Et jusqu'à maintenant, cette nation crée beaucoup de jalousie au monde entier. Ce peuple minuscule qui est rien du tout. Mais on voit toujours cette main de Dieu qui est toujours fidèle comme une mère derrière son enfant. Oui, cela pourrait être difficile à nous aussi aujourd'hui d'y croire. Mais c'est comme ça. Notre Dieu est un Dieu qui peut nous faire rebondir à partir de rien du tout. Ça, c'est notre Dieu. Et avouons que le message proclamé par le prophète dans ce texte est plus que osé. Quand il dit « Comment croire à un message qui te promet que tes larmes changeront en jouissance, en allégresse ?» À ce moment-là, c'est difficile de le croire, puisqu'il n'y avait que le chaos. Franchement, même moi, je ne sais pas. Ce serait difficile de croire. Et c'est peut-être pas rassurant que je viens de vous dire ici, mais avec notre Dieu, c'est toujours ce qui est impensable à l'homme qui se passe. Mais la seule chose que je sais, c'est que notre Dieu est un Dieu qui tient toujours sa promesse. Il l'a fait avec Israël et il l'a accompli. L'apôtre Paul dit aussi, en effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Il est le oui, dit l'apôtre Paul. C'est donc par Jésus-Christ que nous dirons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Il est le oui de Dieu. Donc quand on parle de Jésus, il est le oui. Il n'y a jamais de non en lui. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Et dans notre texte, il lance même un appel envers son peuple, un défi. Il met en défi son peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Vous verrez et votre cœur sera en liesse. Vous verrez. Et j'aime bien cet appel au défi. Le Seigneur qui appelle. Il lance à son serviteur un défi. Il appelle pour avoir une discussion en tête à tête, d'homme à homme, comme il avait fait à Job. Rappelez-vous de la discussion, du dialogue qui s'est passé entre Job et l'Éternel. Voici un extrait étonnant de ce que le Seigneur lui a dit. « Tiens-toi prêt, je te prie, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Voyez-vous comment Dieu interpelle son serviteur ? « Viens, tiens-toi prêt devant moi, qu'on en parle. » Et là, Job qui se tenait devant l'Éternel, et voici ce que Dieu lui a dit. « Où étais-tu, Job, quand je fondais la terre ?» Job n'a pas eu de réponse. « Dis-le si tu es intelligent. Étais-tu parvenu jusqu'aux réserves des neiges ?» Job n'a pas pu répondre. « As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de combat et de guerre ?» Aucune réponse. Vous pouvez voir cette discussion dans Job 38, versets 3, 4, 22 à 23. C'est passionnant. Comme quoi, ça c'est vraiment une intimité, une proximité avec son Dieu. Dieu nous parle directement, tout droit au cœur. C'était une très longue interrogatoire, avec au final aucune réponse. Et nous aussi, même si nous avons beaucoup de questions, nous aimerons poser des questions à Dieu. « J'ai des choses à te dire, Seigneur. » Oui, il est prêt. Viens, qu'on en parle. Mais à la fin, comme Job, nous n'aurons aucun argument qui tienne debout pour répondre au Seigneur. Mais il nous dit « Vous verrez et votre cœur sera en liesse. » Amen.